Bienvenue sur Fréquence Mistral 99.3 pour notre émission passionnément vôtre. Où je suis ravie d'accueillir en direct un nouvel invité dans un instant. Eh bien bonjour, bienvenue sur Fréquence Mistral dans l'émission Passionnément Vôtre où j'ai le plaisir de recevoir un nouvel invité comme chaque semaine et c'est Nicolas Bourriaud, sculpteur avec une spécificité, sculpteur essentiellement de croix arménienne et de sujets religieux. Bonjour Nicolas Bourriaud, vous venez de Vachères, tout petit village qui est...
À l'autre bout du département,
à
presque.
À l'autre bout.
Voilà, on est monté à la capitale. Et donc, oui, j'habite Vachères du côté de Bannon, entre Bannon et Rayanne, on va dire. Et je suis monté donc, pour vous rencontrer à Digne.
Alors, on va parler sculpture, puisque vous êtes un vrai passionné. Est-ce qu'on va, faire un portrait de Nicolas Bourriaud, enfant, adolescent?
Et plus grand, ça
y est.
Et
plus grand, voilà. Alors, est-ce que déjà, tout petit, vous sculptiez ?
Alors, tout petit, je dessinais. Alors, tout petit, je dessinais. Je sculptouillais, puisque je suis d'une génération qui a pas mal fait d'activités, on va dire, artistiques dans les écoles. Donc, petit, on avait accès à beaucoup de matériaux comme l'argile, tout ça. Et moi, j'adorais ça. Je bidouillais, je farfouillais. J'étais dans une école où on nous laissait quand même l'accès assez libre à tout ce qui était crayon, feutre, sur des grands formats et tout. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de m'amuser à faire ce que j'avais envie d'essayer de faire. Et ça, ensuite, plus grand, ça a continué. Toujours dans un milieu scolaire, j'ai fait mes premières fresques sur des tables d'école au compas et au Tipex.
Ah oui, le compas, c'était pratique déjà pour laisser son art
sur
le bureau.
Sa marque. Exactement, oui. Donc j'ai commencé là, on va dire, c'est mon syndrome Guy de Graine. J'ai commencé à l'école, les marches de cahier, tout ça, et petit à petit, en tant qu'on va dire adolescent, j'ai commencé à penser autrement aussi et à me projeter et à me dire qu'un jour quand même, il faudrait que je fasse quelque chose de toute cette passion qui m'occupait.
Et petit à petit, vous avez laissé tomber votre travail. Enfin, on va voir après.
Voilà, c'est
après.
Ça. J'ai fait une sélection, on va dire, dans ma vie et j'ai laissé des choses de côté. Pour en mettre d'autres en valeur, surtout là, depuis 6 mois, où j'ai vraiment décidé de tout arrêter pour me lancer officiellement, on va dire, à fond dans la sculpture.
Vous avez toujours... vous n'avez pas toujours habité Vachères ?
Non. On est arrivé en Provence avec ma femme il y a un peu plus de 15 ans. Donc, on est arrivé poussé par le désir de soleil. À la base, je viens de Bourgogne, d'Alésia. Mm-hmm. On va dire Alésia, quoi, au pied d'Alésia. Et c'est une grosse envie de soleil, un côté méditerranéen quand même, qui m'a poussé à descendre. Et donc j'ai cherché l'endroit où il y avait beaucoup de soleil, le plus de soleil en France. On m'a parlé de Saint-Michel, à une époque où Internet n'existait pas. Donc on est venu un peu en vacances et on s'est dit que tiens, quand même, on montrait plus facilement une vie ici qu'en Bourgogne. On y serait plus heureux au soleil.
Vous avez toujours aimé bricoler, si on ne peut pas comparer le terme de bricolage à sculpter.
Il y a la recherche, il y a le... Voilà, c'est, dans le terme, moi, ce que j'appelle bricolage, ça s'applique pas mal à ma conception de la sculpture, puisque je vais la plupart du temps dans des ruines ou sur des chantiers de vieux bâtiments pour récupérer des portes, des poutres, des pierres, tous ces vieux matériaux en fait que la plupart des gens jettent maintenant quand les gens font de la rénovation, ils veulent mettre des poutres en fer par exemple, et pour ça ils jettent des poutres en bois qui moi m'interpellent, puisque ces poutres c'est quand même déjà un arbre qui avait poussé, des êtres humains qui ont travaillé dessus, il y a une histoire déjà. Et jeter ça, moi, ça me turlupine un peu quand même. Donc, je vais chercher tout ça, je sors des morceaux de poutre que je ramène chez moi, et en les regardant bien, au bout d'un moment, je commence à y voir un visage, un œil, un sourire, quelque chose. Et là, ben, je prends mes outils et j'attaque, voilà.
Donc, autodidacte depuis le départ.
Totalement autodidacte.
Il
n'y
a pas eu
ouais.
des parents qui ont donné le goût
Non, mes parents, c'était pas leur monde, leurs habitudes. Les études, non, puisque je me suis présenté aux Beaux-Arts après le bac. Et en fait, on s'est engueulé à l'entretien, puisque en fait, maintenant, dans le cursus des Beaux-Arts, on apprend à déstructurer avant d'apprendre à structurer. Et moi, bêtement, je venais là pour apprendre l'art, apprendre à sculpter. J'étais rempli d'un idéal qui avait un siècle de retard, peut-être. Donc ça s'est mal passé et on s'est engueulé à l'entretien. Donc ça, moi, ça m'a renforcé dans ma volonté de faire ce que je voulais faire. Et eux, sûrement, dans la leur, de faire ce qu'ils voulaient faire aussi.
Donc vous avez sculpté tout de suite sur du bois, est-ce que...
J'ai commencé par le bois, oui, puisque déjà c'est plus facile à trouver a priori que de la pierre de taille. J'avais récupéré 3 méchants outils émoussés dans l'établi de mon père. Et j'ai commencé la première fois, je m'en souviens, au fond du jardin, un bout de bois. Je me suis dit, bon, allez, je me donne une après-midi, j'essaye, je vois. Et en fin d'après-midi, je n'avais pas envie d'aller manger, je n'avais pas envie de lâcher le maillet ou l'outil. Je voulais continuer, et ça marchait. Je ne sais pas expliquer autrement que quand je le faisais, ça marchait. Donc ensuite, c'était parti. Je pouvais tout le temps, ça m'obsédait, j'y pensais.
Alors il faut quand même une technique, et il faut des outils spéciaux.
Des outils spéciaux, oui. J'ai fini par en acheter, en récupérer un peu chez des papys à gauche à droite. Et la technique, c'est sur le tas en fait. Hein. J'ai appris en tapant dessus. Je pense que à force, comme je vous disais, depuis enfant, je cherchais toujours, mon œil a toujours cherché dans une tache de peinture, une affiche déchirée sur un mur ou quoi. J'aimais bien regarder ça, y trouver une tête comme on fait dans les nuages ou quoi. Mm-hmm. Donc ensuite, ça s'est logiquement appliqué à mon art, on va dire. Donc c'est arrivé ensuite, j'ai lu surtout, le déclenchant, ça a été le livre d'Henri Vincenot, Le pape des escargots, que quelques-uns peut-être connaissent. Donc, qui raconte l'histoire justement d'un jeune paysan qui un jour commence à sculpter dans son coin tranquillement et qui décide de tout arrêter pour s'y mettre pleinement. Et là, quand j'ai lu ce livre, peut-être était-il écrit pour moi, en tout cas, je l'ai lu et 2 jours après, je sautais sur un bout de bois et des outils. Et depuis, chaque fois que j'ai un petit coup de mou, un petit questionnement de vocation, je prends le livre, je relis quelques pages et hop, ça me redonne l'envie et j'y retourne.
Il y a des baisses de motivation parfois.
Ah, des baisses de motivation. Là, en plus, depuis que j'ai fait ce choix l'année dernière de vraiment m'y consacrer à plein temps, il y a donc beaucoup, beaucoup de questionnements qui s'est posé là-dessus. Et en fait, je crois que j'ai les réponses petit à petit, puisque chaque fois que j'essaye de faire autre chose, où ça capote. Dès que j'ai un plan pour avoir un travail, puisque je suis au chômage en ce moment, ça n'aboutit pas ou je ne suis pas pris. Donc là, je me suis dit qu'après tout, quitte à être croyant, autant croire vraiment en Dieu et à me dire que, allez mon garçon, tu te bouges et tu vas sculpter au lieu d'attendre que ça arrive tout seul.
Et au moment de faire les Beaux-Arts, vous avez été plutôt découragé que motivé par le système
oui.
de formation, d'école. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de devenir ébéniste ou de créer
C'était mon rêve d'enfant, ça. Oui. C'est-à-dire que plus jeune, quand j'étais en troisième, J'ai voulu faire une formation, je voulais même faire un compagnonnage en ébénisterie. Et c'était l'époque où on appelait tous ces métiers les métiers morts. Tailleur de pierre, losier. J'ai un ami de collège qui est devenu losier. À cette époque-là, tout le monde lui a dit de ne surtout pas faire losier, faire des toits en lauze, ah là là, c'est le Moyen-Âge. Et ben maintenant, à 20 ans, il a payé sa maison cash et il est heureux comme tout, il fait des chantiers magnifiques et c'est un homme heureux, oui. Mm. Donc moi, c'est sûr que ça m'a toujours trotté dans la tête quand j'avais voulu faire ce compagnonnage. En fait, mes profs avaient dit à mes parents que, vu mes résultats scolaires qui étaient bons, il valait mieux que je passe un bac et que je fasse de grandes études.
Ce que vous avez fait ?
J'ai passé un doc de philo, mais après j'ai arrêté, puisque les études, c'est pas un métier. J'ai eu assez vite un besoin de...
De créer, de faire quelque chose de vos mains.
Voilà, de travailler. Mmh. Vraiment de mettre un coup, de travailler physiquement, puisque les études, c'est hyper intéressant. Mais non, ça ne nourrissait pas le côté, on va dire, animal. Mm-hmm. Le cerveau était nourri, mais mon corps, lui, demandait autre chose, une autre forme de vérité, on va dire, à la limite. Voilà. Dans la philo, il y avait une part de vérité, mais dans le travail, il y a quand même une autre vraie vérité, quoi. Monter un mur, monter sa maison, construire quelque chose qui existe, là, voilà, on est vraiment les mains en plein dans la réalité vraie.
La première chose que vous avez sculptée et que vous avez conservée, vous vous rappelez ?
Alors, la première que j'ai sculptée, je m'en rappelle, puisqu'on l'a brûlée en arrivant, justement. Oh. On arrivait ici, dans le département, on était socialement quand même très pauvres, et on a eu une maison où il n'y avait pas de chauffage, juste une cheminée qui fumait, mais en sens inverse dans la maison. La maçonnerie provençale, c'est un art récent quand même. Et donc, on s'est retrouvés. C'est là que j'ai commencé d'ailleurs à aller les premières fois dans des ruines pour aller chercher du bois pour brûler. Et puis, un jour qu'il n'y avait plus de bois sec pour allumer le bois, j'ai pris cette première vieille sculpture. C'était un masque. Je me souviens, j'avais fait un visage dans un tronc d'arbre. Vraiment, comme un enfant, les premières choses qu'on voit dans un arbre, voilà, un visage. Et j'étais allé le chercher. Et c'est cette technique que j'applique encore maintenant, mais de manière quand même beaucoup plus poussée, puisque je fais des sculptures de 2 mètres. Mais ma première sculpture, ouais, c'était ça. Je me souviens de celle-ci, puisqu'elle nous avait servi. En plus, on rigolait avec ma femme, que ça ferait une mythologie familiale assez fantastique.
Donc vous l'avez brûlée pour vous chauffer.
Voilà, c'est ça,
tout
comme
simplement,
dans les livres. Voilà.
Mon Dieu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pendant le
On a eu chaud.
Vous avez eu chaud.
Ça a été payé pour le coup, c'était extraordinaire. On a été surpris par les hivers provençaux.
Parce que c'était un gros masque. Hein, pour chauffer, il faut...
Non, c'était surtout pour allumer le feu.
Pour allumer le feu.
Puisque le reste que je récupérais dans les ruines, c'était généralement humide en plein hiver.
Oui.
Et donc voilà. Ouais. Mais c'est le souvenir de... C'est ça. Sur ce masque, j'ai un souvenir de travail associé à un souvenir de calories.
D'accord. Nicolas Bourriaud, sculpteur, sculpteur de croix arménienne, plus particulièrement en ce moment. On va faire une première pause musicale. Et vous avez choisi de nous faire écouter Pixies Caribou.
Ah, les Pixies, oui.
Et vous êtes toujours sur Fréquence Mistral en compagnie de Nicolas Bourriaud qui nous vient tout droit de Vachères, un joli petit village à une heure de route d'ici à peu
voilà,
près.
Voilà, une heure pour les plus rapides.
Où vous avez votre atelier et vous êtes sculpteur, artiste, sculpteur.
Voilà, oui, je fais principalement et même maintenant uniquement de l'art sacré, c'est-à-dire des saints, Vierge, Christ, et aussi beaucoup maintenant de croix arménienne.
Alors justement, pourquoi est-ce que vous êtes religieux?
Religion
particulière qui vous a inspiré?
Ça m'est venu, on va dire, naturellement. Puisque en fait, à la base, je n'avais rien de religieux du tout. J'étais un petit punk, un petit gars sympa, un peu punk, qui fait un peu le con. Voilà, mon rapport à la religion, c'était plutôt d'aller faire pipi dans les bénitiers quand j'avais 17 ans. Et ensuite, disons que c'est plutôt, on va dire, la vie qui m'a rapproché de choses plus essentielles, puisque je suis passé par des phases... On va dire où je me suis plus mis en danger que je n'aurais cherché à vivre. Et à un moment donné dans ma vie, je suis tombé très malade. J'ai failli donc mourir. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai fait le pari de la vie. Donc, c'est-à-dire que si je choisissais de vivre, je prenais le bon côté des choses et la joie. Et à partir de ce moment-là, ça s'est beaucoup décanté pour moi. Ça allait beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Donc, pour les gens qui me connaissaient avant et après, il y a eu un gros changement. Donc, je me suis mis à être beaucoup plus gentil, même vis-à-vis de moi-même, ce qui était déjà très difficile.
C'est ce rapprochement de la mort qui vous a...
Qui m'a obligé
qui
à choisir.
Transformé.
C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de choisir entre mourir et vivre. Et si je choisissais de vivre, c'était pour vivre en vrai, donc pas pour me morfondre. Et donc j'ai fait le pari de la vie. Donc cette occasion s'est présentée à l'étranger.
Et il y a combien d'années?
Oula, j'avais 19 ans.
Ah oui, très jeune donc.
Ouais. Et là, je me suis dit, je rentre en France. J'étais tombé amoureux 2 ans avant d'une gamine au lycée. Donc, je suis rentré en France en me disant, je reviens en France et je vais l'épouser. Ça sera ma femme. Et voilà.
Et ça a été?
Ça a été. C'est elle qui m'a amené dans vos locaux là. Et oui.
Oui. Donc, très jeune,
vous avez
trouvé la femme de votre vie.
Je l'ai trouvée très jeune. Ensuite, ça a été plus long. Pour la récupérer, ça a été plus long. Oui. Mais très jeune, je l'ai rencontrée. La première fois que je l'ai vue dans le lycée, je me suis mis à trembler, à bafouiller, comme Obélix devant Falbala. Et j'ai été incapable de lui parler pendant les 2 ans qu'on a passé en commun au lycée. Je ne pouvais pas. L'idée même de lui parler, j'avais envie de tomber dans les pommes et de faire pipi en même temps. Donc ensuite, voilà. Ouais.
C'est beau, elle l'a su?
Oui. Oui, vous pensez bien. Je ne suis pas privé de lui raconter.
Pendant ces 2 ans.
Ah non.
Elle ne savait pas.
Non, elle savait que j'existais parce que j'avais une tête bizarre quand elle me regardait. Mais en fait, non, elle ne me connaissait pas plus que ça.
Voilà. Donc, 2 ans...
Deux ans après, voilà, on s'est re-rencontrés et elle a vraiment fait partie du début, justement, de, on va dire, ma conversion, de ma reconversion, dirait beaucoup de musulmans. C'est-à-dire que je suis revenu à un principe pour moi originel, qui est le principe de vie et de joie. Un enfant qui naît, il a envie de vivre, il est joyeux. Un enfant qui sourit, il a envie de sourire et il sourit parce qu'il en a envie. S'il voit un papillon passer ou le nez en fraise du pépé. Moi, c'est pareil. Maintenant, si je vois des oiseaux en train de faire les crétins dans une flaque d'eau, je peux m'arrêter 3 minutes, les regarder en souriant et leur parler. Même si j'ai sûrement l'air un peu con, ma foi, ça je m'en prive plus. Dire bonjour aux chats, aux pigeons, ça me fait plaisir tous les matins. Un côté un peu Saint-François, on va dire. J'ai pris le côté positif, joyeux de la religion. Et le côté le plus profond, le puits dans lequel on peut plonger, ça, je me le suis gardé pour l'intérieur. Mais maintenant, je ne prends pas la religion, la chose spirituelle, on va dire, comme quelque chose de noir, de lourd à porter. Au contraire, si il y a une religion et un dieu, c'est pas pour qu'on souffre. Ou alors c'est vraiment, si Dieu veut qu'on souffre, c'est vraiment un con. Ça, c'est pas possible. Donc, à nous aussi de, voilà, de prendre les choses comme elles sont bien, de se réjouir de tout ce à quoi on peut se réjouir. Et en plus, nous, on vit dans une civilisation quand même où on a de quoi bien se réjouir. La plupart des gens ont à manger de l'eau chaude que peu de rois ont eue dans toute l'existence de l'humanité quand même.
Ouais.
Donc non, moi, j'ai pris le parti de me réjouir. Voilà. C'est ce qui m'a amené aussi aux croix arméniennes. Puisque dans la spiritualité arménienne, en fait, le Christ n'est jamais représenté sur la croix, puisqu'il y a eu la résurrection, donc il n'est pas mort. Jamais on voit un Christ accroché ou sanguinolent. On voit au contraire une croix avec des fleurs dedans, des fruits, des oiseaux, plein de choses. On peut tout mettre dans les croix arméniennes. Mmh. Ça aussi, c'est ce qui m'a plu. C'est un art populaire, c'est-à-dire que chaque village avait son style particulier, chaque personne en gravait partout. Dès qu'ils allaient quelque part en Arménie, chacun sculptait une croix arménienne. Et même en France, maintenant, la diaspora arménienne a toujours une sensibilité. Je vois, puisque je communique beaucoup par Facebook, puisqu'on est dans un département qui est relié au monde maintenant grâce à Internet. Donc je fais ma promo sur Facebook auprès des Arméniens et je vois leur réaction devant une croix arménienne. Il y a vraiment du sentiment qui ressort. Et ça me fait quand même bien plaisir de voir des réactions aussi, la réaction des gens devant mes sculptures. Quand j'avais exposé à Fort Calquier, il y a quelques années, j'avais exposé une grande scène qui fait 2 mètres et j'avais trouvé quelqu'un qui priait devant. Ça vaut quand même des salaires. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Mm-hmm. Cette personne avait vu ce que moi je voulais passer. Et donc c'est pour ces gens-là maintenant que je sculpte. Voilà, pour ceux qui veulent comme moi prendre le temps de s'installer devant une sculpture, de la regarder. Je fais pas, on va dire, ça va faire un peu pompeux, mais je fais pas un art qui à limite est accessible de suite. Je veux, ou ça se trouve comme ça, que devant mes sculptures, on passe un peu de temps, même pas mal, à s'asseoir, à regarder, à... Moi, je dis imbiber. Voilà. J'aime bien quand on prend le temps d'imbiber les choses. Et pareil pour moi, quand je vais visiter une expo ou un lieu, j'aime prendre le temps d'infuser ce qui est envoyé, ce que moi, je vais donner aussi en regardant cette sculpture ou un bâtiment. J'aime qu'on participe à deux et prendre le temps d'une relation. Et ça, à mon avis, c'est ce qui manque un peu dans l'art contemporain, qui vise plutôt une accessibilité rapide, voire une culture, on va dire, du médiocre, du plus connu. Donc on peut se retrouver avec des Mickey peints en doré, des corps humains découpés, juste pour un plaisir stupide de choquer. Alors que pour choquer, on peut très bien faire pipi dans des bénitiers à 17 ans. Ça se fait très bien. Et c'est moins dangereux pour les autres.
Déjà, vous connaissiez la thérapie par l'urine, alors.
Voilà, c'est ça. C'est ça, comme les poilus de 14.
Donc, vous sculptez essentiellement avec des objets de récupération,
le temps ? Oui, tout le temps, puisqu'en fait, j'aime qu'il y ait une histoire accrochée à ces matériaux. Et comme je suis autodidacte, j'ai des angoisses dès que c'est trop lisse, trop propre. Ça me colle des angoisses. J'ai l'impression de blesser moi-même un arbre ou qu'il ait été coupé pour moi. Donc je préfère que ce soit passé déjà dans d'autres mains, qu'il ait eu une utilité. Et j'aime bien qu'on récupère les choses un peu jetées, mises sur le côté. C'est mon côté punk. C'est-à-dire que... Même petit, j'aimais bien défendre ceux qu'on allait embêter, les gros, les parias, les intellectuels, les porteurs de lunettes. Moi, j'aimais bien aller les défendre, parce que j'aimais pas qu'on aille taper sur eux. C'était trop facile, trop simple, trop commun. C'est ensuite, c'est ça en fait aussi qui m'a ramené plus tard à la spiritualité, puisque j'ai toujours eu une conscience de l'autre.
Et... Est-ce que vous-même, vous avez souffert étant enfant de moqueries de...
Ah non, pas du tout.
Que vous avez eu envie de défendre le...
J'ai vite compris les codes sociaux. J'étais un enfant mignon, sympa, souriant. Je faisais des petites blagues, je faisais des conneries, mais on ne pouvait pas m'engueuler parce que j'étais mignon et sympa. Donc pour moi, c'était très facile le jeu social. Ça, Donc c'est pour ça justement que j'aimais pas qu'on en mette à l'écart ou qu'on rejette des gens pour voilà parce qu'ils sont ou trop bronzés ou trop rouquins ou trop roumains. Voilà, donc ensuite ça m'a amené à la philosophie, à une philosophie plutôt de la liberté. Donc ça m'a emmené à je suis toujours même un gros Nietzschéen, c'est-à-dire que voilà, je considère qu'on est libre et quand même dans une certaine mesure responsable de nos choix, sinon de nos actes. Et en fait, ce pauvre moustachu de Nietzsche, il m'a libéré d'une vision de la religion dont nous parlions tout à l'heure tous les deux, c'est-à-dire une vision un peu raide, qui tire vers le bas, qui restreint, qui oblige à la culpabilité, qui... Et non, en fait, à aucun moment on peut lire que le Christ, déjà, pour le peu qu'il a écrit lui-même, qu'il y a eu un message de culpabilisation, de responsabilisation, oui, de repentir, tout le monde est capable de se rendre compte quand il a été con, ça nous arrive tous une paire de fois, et je n'ai jamais trouvé dans un message, et même dans d'autres religions, même dans l'islam, il n'y a aucun message, à aucun moment, on va dire, Dieu et ses envoyés ont dit qu'il fallait culpabiliser, se morfondre et s'entretuer les uns les autres. Personnellement, qu'on se rende compte qu'on a été une grosse truffe et qu'on essaye la prochaine fois de ne pas recommencer à être aussi con que cette fois-ci, voilà, là, le combat, il est là. Ensuite, aller farfouiller dans la conscience du voisin, c'est facile et en plus, c'est pas très propre.
On va faire un lien avec Brassens, la prière.
Voilà, oui. Hein?
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend, par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insulté, je vous salue Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie, mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tout ce dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins, je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue Marie.
Vous Vous êtes toujours en compagnie de Nicolas Bourriaud, sculpteur, dont l'atelier est à Vachères dans le 04, et nous venons d'écouter Georges Brassens, La Prière. C'était un bien mauvais enregistrement, mais on a reconnu la poésie de Georges Brassens, c'est l'essentiel. Donc on parlait de religion, justement. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a de quoi s'en dégoûter certaines fois.
Il y a eu plusieurs occasions, il y en a encore régulièrement, de s'en dégoûter. C'est pour ça que personnellement, je fais déjà une grosse différence entre Dieu et la religion. Parce que la religion, ça reste avant tout une affaire d'homme. Que Dieu, au moins, ça reste son affaire à lui. Et oui, sur les religions, nous en discutions pendant la chanson. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de contre-exemples, ce qui, moi, plus jeune, m'avait amené à vraiment la rejeter. Et ensuite, en ayant un peu plus réfléchi la chose, j'ai vu que les problèmes venaient des hommes, de leur libre choix d'être ou bon ou con. Et donc voilà, j'ai arrêté de juger aussi la chose sur mes critères à moi. Et puis il y a eu quelques rencontres, dont notamment aussi le père Kerr, qui a été curé du côté de Rayanne lors de mon mariage, qui justement avait autorisé que pendant la cérémonie, nous passions la prière de Brassens et une autre prière de Kenny Arcana, que j'espère que nous aurons le temps d'écouter à la fin, et un homme qui vraiment, on sentait l'homme de Dieu. Et même au sein du village de Vachères, qui compte quelques résistants rouges de chez Rouge, il allait auprès d'eux, discutait avec eux, bossait avec eux quand il y avait une fête au village à installer, il portait les tables, tout ça. Et même les plus rouges de chez Rouge m'ont dit que ce curé, il était bien, on avait l'impression qu'il croyait en Dieu. Et c'est vrai que voilà, des rencontres comme cet homme avec qui j'ai discuté une paire de fois de choses au-delà des choses du quotidien, on va dire, où on parlait un peu spiritualité, oui, ça m'a rapproché aussi de l'Église et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, fallait pas non plus être stupide et pas ranger tout le linge blanc, gris clair, gris foncé, suivant la couleur des taches, dans le même sac. Donc maintenant, j'essaie de voir vraiment au mieux des choses, ne serait-ce que sur l'Église. Même si au niveau départemental, je la trouve un peu moribonde, un peu ternouille. J'ai par exemple déjà essayé plusieurs fois de contacter des instances, l'évêché, tout ça, pour parler de mes sculptures, demander ne serait-ce qu'une aide pour exposer, une salle ou quelque chose. Et sur 4 ans... j'ai eu une fois une réponse sympa sur Facebook, mais qui n'a rien donné derrière. Donc voilà, là encore, bon, je ne juge pas, mais c'est vrai que je trouve que la chose spirituelle mérite plus de joie et peut-être d'être un peu plus vécue aussi au quotidien par les gens qui sont croyants, puisque croyant, c'est quand même une grosse obligation, je pense. À partir du moment où on est croyant, j'ai relu récemment Didier Decoing qui racontait sa conversion et il parlait justement du problème du croyant. C'est que le croyant, il ne peut plus déconner. Il n'a plus trop d'alibi pour se cacher derrière, et être vraiment croyant, ça oblige, selon moi, c'est-à-dire moi qui suis redevenu croyant, c'est accepter une grosse obligation de bien faire. Et c'est vrai que régulièrement, quand j'entends des gens croyant se permettre d'avoir des mots, on va dire, plus que déplacés sur des êtres humains, ou qui se permettent, voilà, de généraliser sur une ethnie ou sur une religion pour sortir des monstruosités, je me retiens toujours quand même de leur rappeler que s'ils sont croyants, ils sont quand même observés par quelqu'un qui déborde d'amour et qui n'attend que ça de nous. Donc j'avais lu une très belle phrase un jour qui était: pendant la période de carême, surveillons plus les mots qui sortent de notre bouche que ceux qui y rentrent. Et je trouve ça très bien, et même j'essaye de l'appliquer au quotidien. Voilà.
Ah, les mots peuvent avoir une puissance, hein, une énergie destructrice.
Ça peut être une flèche de haine, comme un bisou d'amour, voilà, et qu'on peut envoyer aux autres, et même le plus souvent qu'on s'adresse à soi, parce que c'est très facile de ne pas s'aimer, de se contraindre et de se recroqueviller soi-même dans un petit coin, tout en jugeant que c'est la faute des autres.
Et oui, c'est plus facile d'être victime.
Oui.
En tout cas, il y a certainement une divinité en vous, comme il y en a dans chaque homme.
Hein. J'espère bien.
Et c'est celle-là qu'il faut faire vivre, et c'est celle-là qui est créatrice.
Oui. Là, c'est cette part-là de moi que je veux faire créer. Oui. Maintenant, j'ai mes petits rituels quand je vais sculpter.
Alors oui, il y a besoin de méditation, un temps de méditation. Avant de s'attaquer, c'est une façon un peu violente de...
C'est ça. Moi, j'aime bien l'expression, justement, ouais. S'attaquer à quelque chose. Ouais. Puisqu'en plus, le travail, au début, passe vraiment par du travail de force pour dégrossir. Mm-hmm. Je travaille uniquement à la main. Donc, quand je m'attaque à un tronc d'arbre ou alors à une poutre d'abbaye, ça fait quand même des gros diamètres. Et au début, c'est très physique, justement. Mais j'aime bien travailler ce côté dur au début pour finalement, à la fin, terminer vraiment en gratouillant à la pointe de l'outil, du bout du doigt, un détail d'un œil, d'un ongle ou quoi. Mais j'ai besoin aussi de ce rapport, justement, assez violent. J'ai tendance à dire, bouchez-vous les oreilles des enfants, un rapport assez couillu. J'aime bien qu'il y ait du renvoi. C'est pour ça que je travaille principalement du chêne ou de l'olivier ou de la pierre, des choses sur lesquelles je peux envoyer du lourd, quoi. Mon côté punk, là encore, faut que ça tape fort et il faut que ça dérape. Pareil, faut que ça dérape un peu violent des fois. J'aime bien laisser, par exemple, une partie de ma sculpture où je laisse complètement l'aspect poutre apparent, même s'il y a encore des clous ou de la chaux dessus ou quelque chose. J'estime que c'est légitime par rapport à la sculpture telle qu'elle est à la fin, son histoire. S'il y a un moment, il n'y a rien qui se passe sur tel endroit, bon, je laisse. Et j'en ai déjà laissé où il y avait des poutres, où il y avait des clous, des fils électriques.
Mais c'est dangereux tout ça.
Oui, j'ai même fait un grand Saint-Christophe dans une traverse de chemin de fer, puisque c'est le saint patron des voyageurs. Donc là, dans traverse, il y a encore des morceaux de ballast, des cailloux qui sont rentrés dans le bois par la pression. J'aime bien quand il y a encore ce vécu pareil autour. Et les gens, en plus, maintenant, regardent ça aussi avec de la tendresse. Une poutre en bois... une vieille porte, là j'ai fait récemment, j'ai travaillé le plateau en bois d'une auge de bergerie. Moi ça me plaît d'attaquer ça parce que tout de suite je pense au troupeau qui est venu manger dedans pendant des dizaines d'années, il y a eu des bestioles.
Oui, il y a toute une histoire derrière.
Cette âme d'enfant, c'est pareil, j'imagine ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y aura après, j'en sais rien, mais... Tout le truc avant d'imaginer, je regarde toujours s'il n'y a pas quelqu'un qui a gravé quelque chose... Il y a 10 ans, j'avais sculpté un tronc de platane pour la mairie de la Motte du Caire, qui se trouve encore, je crois, actuellement devant la mairie. Et en fait, cet arbre devait servir de panneau d'affichage municipal depuis une centaine d'années. Et donc, au fur et à mesure que je le sculptais, au début, j'avais des clous, on va dire, récents, industriels. Et arrivé, l'arbre, il faisait environ 1,20 m de diamètre. Et arrivé à 20 cm du cœur de l'arbre, il y avait des clous, mais qui étaient des clous forgés.
Ah oui.
Oui, je suis remonté dans l'histoire de ce pauvre arbre qui avait pris ses clous. Et là, moi, ça me touche.
Donc il s'est développé, il s'est épaissi ces clous qui sont restés à l'intérieur.
Ils sont restés à l'intérieur, oui. Et là, moi, en tant que sculpteur, j'aime aller trouver ça au milieu de l'arbre. C'est un peu mon trésor. Qui ne vaut que pour moi, d'ailleurs. Ça reste un clou rouillé.
Donc, vous sculptez depuis 4 ans à temps plein, non ?
Non, je sculpte depuis 15 ans vraiment, réellement. Ouais. Et là, depuis 6 mois, j'ai laissé donc toutes mes activités, on va dire, parallèles. Avant, j'étais cantonnier à la mairie de Vachères.
Alors, cantonnier, on est dans la nature aussi ?
On est surtout accroché au balai.
Au balai,
et à la débroussailleuse.
Et
voilà, c'était
bien. Balaye les feuilles mortes.
Voilà, très bien, à l'appel.
À l'appel, voilà. Il y avait déjà de la poésie dans ce travail.
Oui. Il y avait du graphisme aussi.
Il y avait quand même le temps d'observer aussi.
Je romance le
métier de cantonnier, peut-être.
Non, il y a toujours un moment où le cantonnier va s'asseoir fumer sa cigarette. Non. Parce que le cantonnier est poète, mais il ne faut pas trop le dire. Le répétez pas.
D'accord.
Il ne faut pas trop le dire. On peut dire que c'est un gros feignant, mais ne dites jamais que c'est un poète.
Bon.
Ça va le faire rougir. Et c'est vrai que même quand j'étais cantonnier, il y a des fois, je me souviens, où je nettoyais le boulodrome pour ramasser les feuilles mortes. Et je faisais plein de petits dessins, justement, avec le ramasse-feuilles. Je ne peux pas m'empêcher de toujours faire un peu des lignes et des creuser un peu plus. Pareil, quand je manie la débroussailleuse, bon, j'essaye toujours de faire 2-3 spirales, 2-3 traits à gauche, à droite. Ou même quand je passais la tondeuse sur ce qui est le terrain de foot de Vacher, je la passais de manière aléatoire pour voir à peu près, en partant un peu dans tous les sens, pour voir en combien de temps je pouvais réunir tous les trèfles.
Donc il y a toujours ce côté créatif.
Créatif et amusement.
Que là, vous sculptez le bois essentiellement.
Il y a la pierre un peu, oui.
La pierre aussi.
La pierre un peu, Je sculpte en fait tout ce qui s'enlève. J'ai déjà sculpté avec un karcher un peu puissant, un mur en béton aussi. Ça, c'est très joli.
Ah oui.
On fait des très jolis dessins en karcher sur les murs en béton.
Ah oui.
Oui, ça a essayé, c'est bien. Ça nettoie, on ne salit pas et en plus on peut creuser un peu le ciment avec. Dès que je peux, je grafouille. J'ai même aussi fait un peu de tatouage à titre artistique. J'avais acheté le matériel pour essayer parce que la technique... Il y a un toucher, il y a l'aspect technique et sensuel, on va dire. Mais alors là, en termes artistiques...
Parce que là, ça demande... C'est sûr, c'est un art de sculpter, mais c'est aussi un autre art de peindre ou de dessiner.
Ah oui, c'est un art complet. Voilà, la peinture, oui, et le tatouage, d'autant plus. Puisque là, avec le tatouage, ce que j'ai retrouvé de la sculpture, c'est le goût du matériau. La peau humaine, chaque personne a une peau différente, chaque endroit est différent... Ça m'a permis aussi, pour les amis à qui j'en ai fait, parce que c'est surtout moi que j'ai tatoué quelques amis, c'est de travailler avec eux la relation au dessin, au symbole. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est vraiment discuter avec la personne de ce qu'il veut, pourquoi, on réfléchit ensemble, je propose plusieurs projets. Travailler pour l'intime des gens, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Pareil en sculpture, quand c'est arrivé que des gens me demandent tel ou tel saint, je vois avec eux le pourquoi, le comment, on cherche les symboles. Parce que quand on met un pied aussi dans le milieu de la représentation iconographique, on met les quatre autres pieds, on les met en plein dans la symbolique. Donc là c'est pareil, c'est un jeu pour l'esprit qui est toujours assez amusant de voir comme les saints sont avec leurs attributs. Les dates sur le calendrier, tout ça, ça me passionne aussi. Puisque là, les choses ne sont pas faites par hasard. Et là, j'aime bien, puisqu'on rejoint justement, c'est ça, l'intimité de la personne en face.
Donc, vous sculptez essentiellement des saints, des anges.
Oui.
Et vous les peignez après ?
Alors oui. Ça, l'histoire est rigolote, puisque pendant 10 ans, j'ai accompagné, aidé. Au début, c'était une personne malade qui avait une sclérose en plaques. Puis à la fin, c'était devenu un ami. Donc je l'ai accompagné, on va dire, jusqu'au bout. Et lui a toujours cru en moi en tant que sculpteur. Mais il m'engueulait tout le temps puisque, en fait, je ne mettais pas de couleur. Je laissais brut mes bois, dont certains un peu pourris sur le bord, tout ça. Et lui, ça le turlupinait. Et il a lâchement profité d'être mourant pour me faire promettre de mettre de la couleur sur toutes mes prochaines sculptures.
Ça, c'est pas sympa.
Non, ah, voilà.
Et alors, vous le...
C'était un accord tacite. Ouais. J'osais juste pas le faire. Mmh. J'avais encore du mal, parce que là, c'est mettre encore plus en valeur ce qu'on veut dire en mettant de la peinture. Et puis maintenant, je m'y suis mis. Et je m'y suis mis des fois pas à moitié. C'est-à-dire que sur les croix arméniennes, par exemple, il y a une logique de couleur et de vie aussi. Donc j'en ai fait quelques-unes où j'ai pu me permettre d'assembler du turquoise avec du rose, de l'orange, du bleu. Où là, vraiment,
ça jette.
Ça jette et j'aime bien, puisque d'un côté, ça rapproche d'un esprit, on va dire, graffiti assez moderne. Toutes ces couleurs qui peuvent ne pas toujours aller ensemble et tout, ou qui sont juste là pour surligner, souligner un détail ou une phrase. Et ça rejoint aussi tous ces arts populaires d'Europe de l'Est, de Moyen-Orient, pareil, où la couleur est encore présente. Ce qui a disparu de nos églises à la fin du Moyen-Âge, et qu'on retrouve encore maintenant quand ils éclairent à Reims. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand ils font tous les éclairages maintenant pour remettre comme c'était à l'époque. Bah, si on voit comme c'était, ça n'a rien à envier d'aller en Inde voir un temple. C'était pareil. Il y avait des codes couleurs qui étaient précis, mais qui claquaient, du bleu, du rose. C'est quand même plus joyeux que voilà, toutes ces sculptures aussi grises de pots d'échappement et de pollution et d'oxyde. Mais ça a été très long pour moi d'arriver à mettre de la couleur. C'est comme affirmer qu'on est content. C'est jamais très facile de dire à tout le monde « Ah, je suis super content !» On a toujours peur d'en déranger un. Ben, là, c'est pareil. Au début, j'en mettais un tout petit peu, 2-3 rappels, et maintenant, je me lâche. J'en fais encore certaines quand même en bois brut, parce que j'ai ce côté... J'ai mon animal en moi qui aime encore l'odeur et le goût du bois, mais c'est vrai que maintenant, je suis passé à la couleur, c'est ça. Je termine le XXe siècle et je vais passer en HD dans 15 ans.
Bon, on va faire une autre pause musicale avec Vampas.
Ah, les Vampas, ça c'est la chanson que je dédie spécialement pour ma femme.
Oui.
Oui, j'avais même réussi à la faire jouer par un groupe de jazz à notre mariage. Et ouais, non, celle-ci c'est la chanson de moi à elle.
Alors, Vampas, petite fille, on peut savoir le prénom de votre femme ?
Barbara.
Barbara, un joli nom. Fréquence Mistral, dans l'émission Passionnément Vôtre, il y a Nicolas Bourriaud et on vient d'écouter Les Vampas, dédiés spécialement à sa femme Barbara. Les Vampas, donc, est un groupe...
C'est un vieux groupe, des années 80 qui a duré justement quelques dizaines d'années. Et dont une des particularités était que le chanteur et une partie des musiciens étaient salariés. Donc comme disait le chanteur, je peux écrire les albums que je veux, je m'en fous si ça se vend pas. Et c'est un groupe qui a écrit quelques chansons assez connues et aussi quelques belles chansons d'amour, dont notamment Petite Fille, qui saura ravir toutes les petites filles qui dorment en nous.
Nicolas Bourriaud, donc sculpteur de sujets religieux, où vous y mettez toute votre âme, et apparemment, donc, ça touche aussi les gens
qui
les voient et qui peuvent se recueillir devant.
Oui, je l'ai même encore vu récemment, puisque j'expose à l'abbaye de Val-Sainte, donc du côté de Bannon, dans la roseraie et dans l'église de cette abbaye. Et là-bas, justement, j'ai fait un pari spécial, un pari stupide, dirait Prévert, c'est-à-dire que j'ai fait le pari que uniquement dans cet endroit, puisque c'est un endroit sacré, il n'y ait pas d'histoire d'argent entre les gens qui aiment mes sculptures et les sculptures. Et donc, j'ai décidé que si jamais quelqu'un veut une sculpture à Val-Sainte, il donne ce qu'il veut. Donc ça va de 10 centimes à pas plus de 10 000 euros, parce que ça ferait trop quand même. Et voilà, dans cet endroit, avant je faisais ça tout le temps, c'est-à-dire que si quelqu'un voulait une sculpture, il avait qu'à me demander, il la prenait pour le prix qu'il voulait. Ça n'a jamais marché.
Eh ouais.
Non, beaucoup de gens le prennent ou pour une provocation, ou... enfin j'ai jamais trop compris. Mais sur un lieu comme Val-Sainte, je continue à faire ce principe-là, puisque c'est un lieu sacré et j'aime bien, voilà. Pouvoir enlever tout blocage qui est si quelqu'un tombe amoureux d'une de mes sculptures, si vraiment elle plaît à quelqu'un. Moi, ça me dérange qu'il y ait quand même un problème financier à accrocher dans ce qui devient une relation, on va pas dire amoureuse, mais quand même, voilà, quand il y a un coup de cœur de quelqu'un pour une sculpture, je suis parti du principe de lui faire confiance. Donc si cette personne n'a que ça, que 200 euros, ou s'il a la chance d'en avoir 2000 ou 4000 ou 20 000, le bienheureux, et ben il peut donner ce qu'il veut. Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'il soit heureux, lui, de son côté. Et puis que la sculpture soit contente d'être chez lui. Voilà.
C'est vrai que c'est toujours difficile pour un artiste de monnayer son art.
Déjà de donner un prix. Enfin, pour moi, ça c'est. Enfin, puisque j'ai déjà travaillé ailleurs que dans l'art, donc une fois qu'on est passé par des travaux un peu physiques ou par les 3-8 à l'usine, le travail artistique est tout à fait agréable et on a du mal à le chiffrer si on a un peu de conscience humaine. Donc, maintenant, moi, vu que j'ai fait le choix d'être sculpteur et d'en vivre à mon atelier, dans mes expos, j'ai des prix officiels qui correspondent à des prix du marché. D'ailleurs, je tiens à dire que si quelqu'un veut m'acheter des sculptures, c'est le moment, j'ai besoin d'argent, donc profitez-en. Et autrement que je cherche des expos. Mais j'ai voulu garder une part de spiritualité quand même à l'abbaye de Val-Sainte, justement, où je suis en expo permanente. En plus, profitez d'y aller, parce qu'en ce moment, il y a tous les rosiers en fleurs, il y a une centaine de rosiers en fleurs, c'est un délice d'y aller.
Donc on peut y aller dès maintenant, on y voit vos sculptures.
Il y a une dizaine de sculptures, je crois, oui, qui sont installées, des grands modèles principalement. Donc c'est des Saint-Michel qui font 2 mètres, un Saint-Grégoire l'Illuminateur qui doit faire plus de 2 mètres, lui. Donc voilà, oui, c'est vraiment des grands modèles et qui sont à des prix tout à fait attractifs, puisque c'est vous qui le choisissez.
Et alors vous n'avez jamais, parce que ça limite quand même le fait de, même si c'est très beau, enfin, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir en direct dans votre atelier ou vos expositions, mais le fait de se limiter à des saints, des anges ou des croix arméniennes, est-ce que ça ne limite pas plus la clientèle potentielle?
Ben c'est un truc, oui, mais c'est-à-dire que moi, j'ai du mal à penser en termes de clientèle.
Oui, oui.
J'ai du mal déjà, c'est récent, très récent pour moi, d'espérer, d'y penser en termes financiers. Donc je cherche
en
déjà
même temps,
à me faire plaisir.
Faire en fonction d'une éventuelle clientèle,
c'est jamais très
bon.
Non, c'est à mon avis, il y aurait peu de retombées. Puis je cherche, je suis un gosse, donc je cherche à me faire plaisir à moi. Je sais que ce que je fais correspond aussi à la part d'enfant de certaines personnes et que mon travail leur plaît. Et justement, je me suis dit que maintenant, mon petit bonhomme, t'as 40 ans, donc tu vas faire juste ce qui te plaît, tu vas faire plus trop de compromis, ou alors ceux que vraiment C'est ta femme qui t'oblige à les faire.
Il y a qu'elle qui peut vous obliger alors.
Oui, ah oui, bien sûr, oui, c'est la seule qui a le droit, à qui j'ai donné le droit de m'obliger. Non, c'est-à-dire que maintenant, moi, je veux me faire plaisir et je me suis rendu compte que mes plus belles pièces, en fait, je les fais quand je me fais plaisir. Si j'essaye de visualiser pour qui je veux le faire ou quoi, j'ai déjà l'impression de me prostituer. Et en plus, techniquement, je fais toujours une merde. Ça fait toujours un truc que je trouve qui tient pas. Non, mon but est de me faire plaisir et je le fais plutôt bien. Donc ça, j'en suis assez content pour l'instant quand même. Voilà, ensuite, maintenant, je cherche à me sortir, à me montrer, ce que je fais, puisque j'ai quand même un gros stock. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais une originalité. J'ai un style qui est le mien, visiblement.
Et, oui,
donc,
et ça, c'est important aussi, de se démarquer de ce qui se fait ailleurs.
Voilà, c'est un état de fait, et ma foi, ça tombe peut-être plutôt bien. En tout cas, ouais.
Et puis, je pense aux églises, c'est quand même aussi un lieu, de vie qui, et qui, il y a de la demande certainement aussi pour décorer son église.
Peut-être. Non, puisque j'ai eu très peu de réponses quand j'ai fait des demandes d'expos.
Mais c'est sûr, si vous faites que des croix arméniennes, les catholiques, c'est pas forcément...
C'est la même croix, c'est la même croix, le même Christ, mais même pour les saints, je crois que l'Église, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, elle est pas moribonde, mais elle fraîchit quand même. Elle fraîchit et... Ce petit coup de renouveau que le pape amène fait beaucoup de bien, va faire beaucoup de bien, je crois, à l'Église, puisque effectivement, comme vous disiez, selon moi aussi, la maison du vivant de Christ, c'est la maison des vivants. Et elle doit servir les vivants, la vie. Faut qu'on laisse rentrer les petits-enfants dans l'Église aussi. Et les petits-enfants, ça fait du bruit. Voilà, c'est des enfants, ça respecte pas les adultes, ça se comporte comme des gosses, les enfants. Donc ça, je pense aussi que l'Église aurait besoin de laisser rentrer les petits-enfants et les grands comme moi, et comme beaucoup d'autres, effectivement.
Vous avez des enfants ?
Oui, deux. Deux.
Alors vous leur faites passer, ils sont tout petits ? Vous leur faites passer le...
Non, ils sont grands.
Le virus ?
Ils grandissent, et je leur passe le virus que je leur passe, c'est d'essayer de faire ce qu'ils veulent. Avec toute la responsabilité que ça demande d'assumer, de faire ce qu'on a envie de faire. Non, là, je laisse les enfants libres, même par rapport à la religion. Quoi. Chacun, c'est un truc d'adulte, la religion. Je considère que les enfants, ça peut les intéresser, ça va surtout les questionner. Et chacun sa route, chacun son chemin, whoop whoop, passe le message à ton voisin. J'ai du mal avec les dogmes, en fait. Dès que je vois un dogme, mon côté nietzschéen, ou dès que je vois une idole, je vais aller taper dessus, voir si ça sonne creux ou... si c'est vraiment du solide. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que Dieu, c'est une idole qui tient bien quand on tape dessus. C'est pas vide. Mais c'est vrai que je suis allé taper dessus une paire de fois, voir comment ça résonnait.
Ah ouais.
On n'en tire pas un son.
En ce moment, vos projets... Donc, il y a l'exposition à Val-Sainte.
Oui, entre Bannon et Apt, par les petites routes. En plus, c'est charmant, c'est joli. Je suis en expo aussi à mon atelier à Vachères, donc j'y suis tous les jours de soleil, je suis ouvert. S'il ne fait pas beau, non, ça me déprime. Autrement, j'ai des expos prévues à l'automne à Grand-Bois et à la Tour d'Aigle, et je cherche absolument des expos pour cet été, parce que, comme je l'ai déjà dit, je me suis lancé en début d'année. Donc la période de réservation des expos était déjà bien passée pour les symposiums, tout ça. Donc si quelqu'un a dans l'absolu un lieu sacré qui pourrait m'accueillir pour exposer, là où si Monseigneur l'évêque...
Avant qu'il prenne sa retraite, alors...
Voilà, c'est ça,
un coup d'éclat. Vous l'avez contacté, voilà. Alors,
je ne sais comment dire que je l'avais déjà contacté il y a quelques années... parce que je l'avais vu dans la presse dire que l'église était pauvre, et je lui avais envoyé une petite lettre pour lui dire qu'il y avait des pauvres aussi qui étaient pauvres et que le rôle de l'église était d'être pauvre. Et de manière pas très tacte, je tiens à m'en excuser, je lui avais rappelé que le rôle de l'église, le côté franciscain, d'accepter justement, c'était Monseigneur Loiseau, donc pour Saint François, voilà, je lui avais demandé de bien relire Saint François, et qu'avant de se plaindre de la pauvreté, l'Église devrait peut-être un peu plus justement s'y tourner vers la pauvreté. Visiblement, il m'a entendu, puisque le pape François a été élu. Mais c'est vrai que voilà, là, c'est une fois où j'avais contacté directement l'évêque. Ensuite, j'ai contacté des sous-organismes en vue d'exposer. J'ai écrit aussi à Gap, à Monseigneur Di Falco. J'ai pas l'air d'intéresser beaucoup de monde de ce côté-là. Donc, je continue mon chemin et voilà.
Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres sculpteurs ? Est-ce que vous communiquez ?
Un peu par Internet, par Internet. Autrement, déjà j'habite Vachères, qui est quand même...
Un peu isolé.
À Vachères, on ne traverse pas Vachères, on y grimpe. Oui, Vachères, on est déjà un peu isolé. C'est pas pour me déranger, je suis pas non plus un grand sociable. Enfin, rejoindre la confrérie, des grands tous ensemble... C'est pas spécialement mon truc. Je suis voilà en relation avec d'autres sculpteurs, mais vraiment par relation d'amitié, les relations professionnelles. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal aussi à ne pas être moi-même. Donc, si jamais je me sens mal à un endroit, je m'en vais ou je veux pas déranger ceux qui me dérangent. Mais donc, je fais pas beaucoup de pas en avant, voilà, hors de mon sentier.
D'accord. Vous connaissez Benoît de Souza ?
Du tout.
Du tout. C'est un artiste à connaître.
Je regarderai alors. Il est du coin ?
Il est sur Digne, mais il est beaucoup allé se rapprocher de Sisteron, puisqu'à Digne, justement, il y avait un petit problème pour trouver une salle d'exposition. Oui. Enfin, voilà, il y a eu aussi des luttes. Il est long, le chemin, voilà.
D'un autre côté aussi, c'est tout à fait stimulant d'avoir à se bagarrer, on va dire, pour s'affirmer. Mais voilà, là j'en suis quand même à un niveau où un petit coup de main, ça serait pas mal, une église ou une chapelle ou quelque chose. Puisque enfin, moi, tout ce que je veux faire, c'est quand même réellement de l'art sacré. C'est vraiment voilà, là que je prends mon pied. Quoi. Et c'est tout ce que je peux faire en fait. Vraiment, j'ai déjà réessayé récemment de faire d'autres choses ou quoi. J'ai l'impression de me faner.
Ah oui.
Ouais. Donc quand on a son truc, on a son truc. Voilà, c'est pour ça que même en rigolant dans une biographie sur Internet, j'avais mis « Je suis sculpteur comme d'autres sont moines ou assassins par vocation. » C'est que si on me demande sincèrement ce que je pourrais faire, depuis même 20-30 ans, je pourrais pas dire autre chose que ce que je fais actuellement. Donc d'un côté, je suis le plus heureux de tous les hommes. Et d'un autre côté, ça m'angoisse d'être heureux à ce point-là, puisque je ne sais pas si ça va perdurer ou aboutir à vraiment ce qu'on peut appeler la tranquillité d'une carrière, sachant bien qu'elle risque d'être d'une tranquillité tout à fait relative. mon but, personnellement, voilà, c'est ça pour l'instant, c'est de réussir à sortir de mon atelier de Vachères et de montrer, de sculpter, de resculpter.
Pour l'instant, vous avez un stock important avec des grosses pièces.
Ah, j'ai des grosses pièces, des petites pièces. Oui, j'ai un stock. J'ai encore plusieurs dizaines de sculptures qui traînaient. Pendant toutes ces années, j'en ai fait qui traînaient devant la maison que j'avais donné, prêté à des copains. J'en ai récupéré un paquet, là. Et voilà, j'ai monté mon atelier et j'ai quand même à présenter une belle expo. J'ai récemment contacté même le couvent des Cordeliers à Manosque, à Fort-Calquier. Où là, ça joindrait quand même voilà, 2-3 passions en même temps, pouvoir exposer dans un lieu sacré, chez les Cordeliers, donc chez les Franciscains, qui restent quand même... parce que Saint-François, là, c'est mon ami le plus... Je ne sais pas si vous connaissez un peu la vie de Saint-François, mais voilà, il parlait aux oiseaux et il conseillait aux gens d'être pauvres. Donc là, voilà, ça rejoint vraiment ma spiritualité. Politiquement, on va dire que j'aime bien aussi ce côté, voilà, ce côté anarcho-chrétien. C'est-à-dire qu'aller réveiller un peu les consciences, dire que c'est pas si mal qu'on soit pas tous de plus en plus riches. Parce que même si on a une époque où on est tous bien riches, on fait des super trucs, il y a plein de choses qui valent cher, on va envoyer des missions habitées sur Mars, mais il y a quand même encore des gosses qui crèvent de faim et de soif dans le monde. Et ça, moi, ça me travaille quand même. J'ai quand même du mal à vivre pleinement mon bonheur d'être humain devant la science ou devant beaucoup de choses, en me disant que tout ça demande quand même qu'il y en ait une partie qui se couche en ayant faim ou qui se lève en ayant soif. Quoi. Mm. Ce reste de conscience humaine et qui, voilà, qui politiquement me rapprocherait plus de l'anarchisme, mais spirituellement, je sais que le chef, il l'est peut-être un peu aussi, anarchiste.
Allez, on passe à notre chanson que vous nous avez préparée, et c'est Rudy.
Rudy Can't Fail, des Clash.
Voilà, merci.
Une reprise d'un vieux ska des années 60.
Nicolas Bourriaud, sculpteur sur fréquence Mistral. Non, vous n'avez encore rien sculpté dans
allez
le
savoir,
studio.
Allez savoir si je ne suis pas passé aux toilettes vous faire un graffiti.
Ah. Alors, sculpteur, graveur, tatoueur, il y a plusieurs cordes à votre arc. On a parlé, bien sûr, ce qui vous passionne le plus,
voilà,
c'est la sculpture.
La sculpture, oui.
Sculpture de croix arménienne ou de saint, oui. Ou d'ange ou de vierge aussi.
De sujet, oui, sacré.
Voilà, sujet sacré. On rappelle que vous exposez actuellement à Val-Sainte, qui se trouve entre Bannon et Apt.
Voilà. Et à Vachère, à mon atelier.
Et à Vachère, votre atelier, dans le 04 aussi. C'est difficile de se défaire d'une œuvre qu'on a travaillée, où on a mis tout son cœur, toute son âme, toutes ses tripes.
C'est pas très... C'est difficile de se dire qu'on va la laisser à quelqu'un. On est content si quelqu'un la prend. Et un peu, on aimerait bien prendre des nouvelles régulièrement.
Voilà, ouais. C'est un peu comme si on confiait
son
enfant. Ou...
voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé que je repasse chez des gens à qui m'en avaient acheté ou à qui j'en avais donné. Et quand je recroise ces sculptures, des fois plusieurs années après, je me dis « Oh, tiens, te revoilà !» Et je regarde, je redécouvre mon travail, généralement déjà. Et après, ouais, je recherche, enfin, je vais pas dire que je lui parle à la sculpture, mais quand même.
Vous avez envie de prendre de ses nouvelles quand
voilà,
même, de voir.
Il y a une reconnaissance, il y a,
ouais. C'est bien de la revoir, quoi.
Il y a un lien qui s'est fait, de toute façon, ouais. Un lien qui se fait déjà quand on la travaille, quand je suis dessus, c'est-à-dire que là, il y a un lien qu'on fabrique, qui est pas toujours un lien gentil, parce que des fois, on s'engueule, hein. Mm-hmm. Des fois, on n'est pas d'accord sur des sujets de base. Et après, le moment le plus difficile, c'est de se dire qu'on va la laisser. Voilà, c'est-à-dire le moment de choix, de dire, bon, tiens, oui, elle est terminée, et je vais la mettre à vendre ou elle va partir chez quelqu'un.
Elles sont systématiquement prises en photo.
Oui.
Il y a, pour alimenter un book, un presse.
Il y a le book, il y a maintenant donc, mon site internet krb1.com. Mm-hmm. Il y a bien sûr ma page Facebook, donc en tant que Nicolas Bourriaud personnellement, et j'ai deux autres pages, puisque je suis un gars qui fait de la promo en ce moment, donc j'ai fait une page sculpteur de saint et une page sculpteur de croix arménienne, comme ça avec des mots-clés bien choisis, je suis un garçon qui fait de la promo. Donc voilà, sur ces pages-là, oui, je les nourris déjà de... sur les 15 dernières années, je dois avoir au moins 130-150 photos d'œuvres. Oui, facilement. Donc c'est même des pages qui sont bien alimentées. Et puis ça m'amuse même maintenant, sur la page Facebook Sculpteur de Saint, je commence à mettre en live l'avancée des sculptures. Par exemple, là, je viens de recevoir un ami m'a livré de poutres d'un prieuré, qu'il a ramené d'un prieuré, et j'ai montré les photos des poutres à l'arrivée pour que les fans, les amis, les même moins amis voient le travail, comment je le fais, c'est-à-dire je passe de la poutre qui arrive vraiment percée de trous, et là on a l'impression qu'on va mettre un coup de pied dedans, elle va partir en poussière, et une fois coupée en deux, cette poutre à l'intérieur, en fait, elle est noire, parfaitement noire, puisque c'est du bois qui a été trempé pendant quelques années avant d'être monté. C'est vraiment du bois de charpente médiévale. Et là, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte aussi, puisque j'en parlais rarement, de mon travail, d'où il vient. C'est-à-dire vraiment ce respect de la poutre, de l'objet qui va être jeté, du travail qui a plusieurs centaines d'années. Donc là, les gens voient bien que personnellement, au-delà de ce bout de bois tout pourri, je cherche ce qu'il y a derrière, à l'intérieur. C'est pas... Oui, c'est une relation, on va pas dire chamanique, mais vraiment, j'ai besoin d'une relation qui va être tactile et même presque magique avec ce morceau de bois qui m'arrive dans ma vie.
Parce que quand on sculpte... C'est assez important, en tout cas pour ceux qui reçoivent la sculpture, de pouvoir la toucher. C'est
oui.
le toucher est très important. On a envie de...
Oui, c'est ce que j'aime voir les gens faire. Enfin, j'aime quand les gens vont justement aller, presque parce que je travaille sur certains endroits de manière assez brute. Donc souvent, je laisse des petits bouts de copeaux, des trucs comme ça. Et j'aime bien voir aussi les gens qui vont enlever les petits bouts de copeaux qui dépassent dessus. Faut qu'il y ait un vécu, une sensation aussi qui puisse se faire avec la personne qui va avoir la sculpture. Quand les gens viennent, souvent je vois que les vierges, ils vont passer la main sur la joue. Ça, c'est un geste classique. Et avec la vierge, les gens vont aller lui passer la main sur la joue. Ou même, j'en ai fait deux enceintes. Pareil, le réflexe, c'est d'aller poser la main sur le ventre de la Vierge enceinte. Donc là, c'est pareil, c'est même presque aussi des gestes de magie, c'est de la magie populaire. Là, on retrouve ce geste instinctif de « Oh, la statue avec la femme enceinte, le ventre de la femme enceinte ou la joue de la jeune fille. Ça, c'est un côté que j'aime bien aussi, voir les gens oser toucher.
Et oui, parce que partout, on nous dit ne pas toucher.
Ah bah oui,
c'est écrit
oui.
partout. Voilà, et on ne peut pas s'empêcher.
On est des êtres humains, on a envie d'aller toucher comment c'est, sentir la chaleur même. Chaque bois, il a une texture, une chaleur différente quand on le touche, ou même la pierre. C'est pareil, la pierre, les gens ont vite envie d'aller passer la main dans une rainure ou dans une spirale.
Et le bois que vous récupérez, parce que c'est vrai que c'est très cher, le bon bois, enfin est-ce qu'il y a des bois plus intéressants? Le chêne, par exemple, c'est...
Le chêne, personnellement, c'est mon côté celte, puisque je viens d'Alésia, mon côté gaulois va voilà, vers le chêne. C'est solide, c'est...
Il y a des bois plus faciles à travailler, plus difficiles?
Il y a des bois plus faciles. J'ai déjà fait du tilleul, tous ces bois, c'est, on va dire, facile. On va vite avec, enfin, on va bien. Mais ce n'est pas ce que j'aime. En fait, moi, justement, sur ces bois-là, on peut trop vite imprimer notre volonté. C'est comme une page blanche. On peut vite dessiner ce qu'on veut. Moi, j'aime quand même, comme je disais, qu'il y ait une relation, donc qu'il y ait un rendu des deux côtés. Là, les bois de récupération que je trouve... Ils sont fendus, ils ont des nœuds au milieu, des fois il en manque un morceau au milieu, il y a une encoche ou quoi. Bon bah ça, moi ça m'arrange justement. Ça va être difficile, ça va casser, j'ai même déjà travaillé aussi de l'olivier qui était un peu pourri à l'intérieur. J'aime jouer autour de ça, c'est-à-dire hop, bon bah ce qui va être pourri, je vais vider pour voir si ensuite autour il n'y aurait pas autre chose qui apparaîtrait. Ce rapport, chamanique, de respect mutuel, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Si c'est trop facile, trop lisse, trop propre, ça me met des blocages. D'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'un menuisier en bas du village me donne des plateaux qui, pour lui, est un peu trop fendillés. Et moi, je les ai laissés encore un peu dehors pour qu'il travaille vraiment, pour que voilà, j'ose m'y atteler. Et même que j'ai une piste pour mes yeux pour trouver quelque chose dedans. Oui.
Les bois, généralement, vieillissent bien
Oui. Bah déjà, quand je les récupère, ils ont déjà bien vieilli. Donc, ils sont arrivés, on va dire, à un maximum de vieillissement. Moi, je les retravaille et généralement, ensuite, je leur remets quelques litres d'huile de lin. Donc, ce qui fait qu'ensuite, la plupart, moi, avant d'avoir l'atelier, là, je les laissais dehors pendant 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans, les sculptures, et en leur mettant juste régulièrement un coup d'huile. J'aime aussi, c'est pareil, que ça vive comme ça, que ce ne soit pas des pièces qu'on met à l'abri de ceci, de cela, qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas gratter, qu'il ne faut pas prendre en photo, et mets pas les doigts dans ton nez. Bon, ça reste quand même des sculptures à vivre. Voilà, jamais je vais aller engueuler un gosse si jamais il vient toucher, voir si ça brille, si ça colle ou si ça gratte. C'est mon principe de base. Il faut que ces sculptures continuent d'être avant tout des morceaux de bois qui ont été sculptés et qui ont leur place quelque part dans ce monde. Mais pas que ce soit quelque chose de mort ou de figé. Ouais, c'est ça, il ne faut pas que ça devienne mort. En fait, voilà, ce que je veux, c'est que ça reste vivant, et c'est pour ça que je sculpte le vivant, la chose du vivant. Ouais. Voilà, je ne veux pas que les choses meurent, ni les gens.
On va écouter une autre chanson. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais il reste 8 minutes. Quel est votre...
Mon choix, ce serait La prière de Kenny Arcana, alors.
La prière de Kenny Arcana.
Oui, alors ce morceau, tout comme la prière de Georges Brassens, avait été le curé, le père Kerr, avait accepté de la passer à notre mariage dans l'église. Et même après, elle avait repassé à ses restes à l'église pour expliquer aux personnes plus âgées que des jeunes avaient de la spiritualité, et certains beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez Kenny Arcana, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de bien écouter les paroles. Ça peut surprendre beaucoup par rapport à ce qu'on peut avoir comme a priori sur une gamine qui fait du rap.
D'accord, on l'écoute.
Une fois de plus, c'est Nec Marron qui vient.
C'est pas celle-ci, d'accord. Ce serait celle d'après ?
Oui.
Eh bien, faux départ.
Oui, voilà.
Seigneur, aide mes pensées à raisonner correctement. Ce monde veut m'enseigner la peur et de A à Z me ment. Je te cherche à mon âme en essayant de la connaître. Ma mémoire veut accroître mon mal en l'insufflant sur ma comète. Plus j'avance, plus j'affronte mes résidus tristes. Je me retrouve à lutter contre mes pulsions autodestructrices. Oh mon Dieu, Seigneur des seigneurs, roi des rois, éternel créateur. Tes commandements seront mes lois. Parle à mon âme, envoie-moi un ange quand je me perds, un signe, un présage, des éclats de pétales dans leur jeu de pierre. Du libre arbitre, mon espèce se retournait vers le démon. Et mon espèce me dit folle lorsque ce fait je le dénonce. Fixe siècle de torture, le cérébral spécule ordure. Le matériel n'est qu'illusion, la connaissance, la vraie fortune. Non pas leur connaissance tordue, mais l'immuable que rien ne corrompt. Nourriture spirituelle pour mieux ranimer la colombe. Seigneur, aide mon âme que ce monde voudrait voir perdue. Car j'ai refusé de la vendre pour accéder à la vertu. Mes frères planent dans le doute, donne-leur la force de rester droit. La sagesse m'a dit connais-toi, pour voir le ciel faut rester toi. Ce monde blasphème, la foi considérée comme futile par ceux qui ne voient pas tes signes, discernant pas le subtil. Mais voudrais donner des leçons aux serviteurs de ta lumière, ceux qui savent que demain sera sûrement ce qu'on a vu hier. Je ne suis qu'une âme égarée, mais réceptive à ton amour. Alors je t'en prie, éclaire-moi. Ce monde veut me mettre dans un moule, se fout pas mal de nos désirs. C'est du cœur, pas de l'ego. Alors j'agis avec amour pour mieux l'entendre dans ton écho. Seigneur, sois de ma colère, elle est la faille de tous mes mots. J'ai trop mémorisé le mal et elle ressurgit dans mes mots. Accepte mon humble repenti sur la route que j'arpente. Esprit de mon âme, je t'en prie, comme lorsque je remontais la pente. Seigneur, guide mes pas, peu importe ce qu'il advienne. Donne-moi la force d'avoir la foi chaque jour plus que la veille. Réchauffe le cœur de ceux qui souffrent, toi qui souffles la vie. Que ton soleil puisse éclairer nos lunes quand s'ouvre la nuit. Réconfort de ton amour, l'enfant seul et malheureux. Protège ces peuples courageux qui survivent les larmes aux yeux. Guide mon espèce à faire la paix avec la création, à faire la paix avec les siens et à chasser l'aliénation. Seigneur, fais comprendre à l'homme que son prochain est son frère, que toutes nos cultures différentes sur le globe sont une richesse. L'homme s'est construit un monde inhumain, écrasant les gens simples. Éclaire le cœur de nos bourreaux pour qu'ils puissent devenir humbles, qu'ils puissent voir avec le cœur, pas avec l'ego ni la tête, afin de plus jamais oublier qu'on est les gardiens de la terre. Que le poids de nos karmas redevienne plume et que les rayons indigo de nos soleils puissent percer cette brume. Seigneur, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Seigneur, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Eh bien, voilà ce qui est du texte.
Voilà, oui.
On va bientôt se quitter.
Et déjà.
Ça passe vite, finalement, 1h30.
Oui, oui, oui.
Nicolas Bourriaud, sculpteur de sujets religieux, essentiellement.
Avant tout, oui.
Avant tout, voilà. Et il y a une âme dans ce que vous faites. Et vous recherchez des lieux d'exposition, des dates d'exposition.
Oui, des lieux, voilà. Des dates.
Des contacts.
Des contacts. Et ce que j'aimerais, voilà, vraiment avant tout, ce serait exposer dans des lieux sacrés avec des gens qui croient vraiment en Dieu. Voilà, là, ce serait mon absolu. vraiment, puisque c'est ce que je veux faire, c'est pour ça que je sculpte, et voilà. Mais des expos, et de la sculpture. C'est vraiment tout ce que je veux, vraiment absolument. Je veux bosser. Et je peux vous dire que ça ne m'est pas arrivé toujours de dire ça dans ma vie. Ça a été un long chemin aussi d'en arriver à dire que, ouais, je veux bosser.
On peut dire qu'on peut vous retrouver sur KRB1.
Sur krb1.com, ça c'est mon site.
Ouais. C'est le site où on peut voir tout ce que vous avez fait.
Voilà.
Et puis, il y a aussi un Facebook.
Un Facebook pour le côté plus vivant et pour partager aussi... pas que des photos de chatons, des photos de poutres et de chatons. Mm-hmm. Et aussi sur Facebook, sculpteur de croix arménienne. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore à quoi ressemble une croix arménienne, c'est l'occasion de venir voir. Et pour ceux qui aiment les croix arméniennes, c'est l'occasion de venir voir. Et voilà, surtout, pourquoi pas, de m'en commander, de me faire exposer.
Nicolas Bourriaud, merci et je vous souhaite longue vie avec les sculptures et d'apprendre à vous en détacher pour les confier à des gens qui ont une belle âme aussi. C'est important. Je pense que vous ne pourriez pas vendre une de vos œuvres à quelqu'un qui vous est fortement antipathique.
Je pense que j'aurais du mal. Je serais capable de lui donner plutôt que de lui vendre.
Bonne soirée.
Je vous remercie. Bonne soirée à vous
à
aussi.
À très bientôt.
Au revoir.
Have their fun in the bird.